Chapitre 19. L'entraînement aiguise les capacités de réaction. On répète des dizaines de fois les mêmes enchaînements, comme ça, au moment où l'agression se produira, on ne restera pas paralysé de stupeur, mais au contraire, on retrouvera une série de réactions instinctives qui mettront rapidement l'adversaire hors de combat. Du moins, c'est la théorie. Tulip et moi avons quitté le commissariat de Grosvenor peu après 8 heures. Pas d'agent McKerrett pour nous raccompagner chez nous. Le soleil du matin, faiblard, perçait à peine la couche de nuages de plus en plus épaisse. J'avais déjà dans la bouche le goût de la neige qui pointait à l'horizon. Je sentais le froid mordant à travers mon manteau, mon bonnet et mes gants. En quelques instants, Tulip, avec son pelage court, s'est mise à frissonner. Ça m'a rendu dingue, et ça m'a servi de prétexte pour qu'on file en quatrième vitesse jusqu'au coin de la rue, où je me suis lancée dans le grand jeu qui consiste à héler un taxi au plus fort de l'heure de pointe. Au bout de 5 minutes, je n'avais toujours pas décroché le pompon, et Tulip tremblait de plus en plus. Un bus est arrivé. Cette ligne allait dans ma direction, alors je suis montée, Tulip dans les bras. La conductrice, une femme noire imposante avec des cheveux gris crêpés, l'air revenu de tout, secoua la tête. « Seulement les chiens d'assistance. » Mais c'est une chienne d'assistance. Elle a perdu son collier. Un voyou lui a enlevé devant le commissariat. Qu'est-ce que vous dites de ça? Regardez-la maintenant. Elle n'a plus son uniforme et elle est morte de froid. Tulip vint à mon secours en lançant à la conductrice un regard particulièrement pitoyable. Derrière moi, 4 personnes se pressaient et essayaient de monter, s'impatientaient de cette attente, surtout par ces températures glaciales. Sans faire attention à eux, la conductrice me dévisageait. « Quel est votre handicap ?»«
Allergie à l'arachide. »
Il n'y a pas de chien pour ça.
Mais si.
Mais non. Mais si, marmonna l'homme derrière moi. Allez, laissez-la monter ou foutez-la dehors, on se les gèle ici.
Je le fusillai du regard, puis mes yeux se posèrent sur les passagers qui occupaient déjà des sièges. Quelqu'un a mangé du beurre de cacahuète ce matin? Demandai-je. Ou transporterait des cacahuètes dans son sac? Quelques mains timides se levèrent. Je me retournai vers la conductrice d'un air triomphal.
« Vous voyez, j'ai besoin de mon chien. Sinon je pourrais mourir dans votre bus, et vous imaginez la paperasse. Une paperasse comme personne n'a envie d'en remplir. »
J'ai passé ma carte d'abonnement devant le lecteur et posé Tulip dans l'allée, comme si le débat était clos. Lorsque j'ai avancé vers le fond du bus, Tulip sur les talons, je savais que la conductrice ne me croyait toujours pas. Mais il faisait un froid de canard dehors et personne n'aime la paperasse. J'avais menti, impunément. Ça m'a rendue un peu vaniteuse, un peu arrogante. 2e erreur de la matinée. Au fond, ce n'était vraiment qu'une question de temps. J'ai dû rester debout. De la main droite, je me tenais à la barre de plafond. J'avais la poignée de la laisse de Tulip autour du poignet gauche et la main gauche plaquée sur le rabat de ma sacoche fermée. Pour en protéger le contenu, surtout mon arme. Il y a une loi dans les transports en commun. Plus il fait froid dehors, plus il fera chaud dedans. La ventilation pulsait de l'air chaud et assez vite les manteaux de laine et les bonnets doublés en polaire si adaptés à l'extérieur devenaient étouffants à l'intérieur. Tulip haletait. Je transpirais. De nouveaux passagers montaient dans le bus bondé, corps chauds serrés les uns contre les autres qui venaient aggraver l'effet sauna. 20 minutes après le début de mon trajet de 55 minutes, j'ai commencé à me sentir vaseuse. Le balancement des suspensions, le roulis sous mes pieds. Les gouttes de sueur qui coulaient de la naissance de mes cheveux jusqu'à mon cou surchauffé. L'odeur fétide de corps trop nombreux, trop serrés, et dont certains seulement avaient récemment pris la peine de se doucher. Encore 5 minutes et j'éloignais ma main de ma sacoche, le temps de desserrer mon écharpe, de retirer mon bonnet. Je respirais un tout petit peu mieux, mais le bus continuait à brinque-baller, les passagers à cahoter, les vitres à s'embuer. J'ai réussi à fourrer mon bonnet dans la poche de mon manteau, mais ensuite j'ai encore dû me servir de ma main gauche. Défaire le premier bouton de mon manteau, le deuxième, le troisième, le quatrième. Dessous, je portais une polaire bleu marine trop grande. Le genre tout doux et sans forme, idéal pour cocooner avec un bon bouquin le dimanche après-midi, mais pour l'instant il m'étranglait avec son col humide de transpiration et ses manches comprimées qui m'en serraient les bras. 30 minutes de passé. Encore 25 à tenir. Le bus s'est arrêté, des passagers sont descendus. D'autres, plus nombreux, sont montés. Tulip gémissait et tirait la langue. J'ai lâché la barre métallique luisante de sueur, passé mon avant-bras sur mon front. Le bus a fait un bond en avant, et mon estomac aussi. Est-ce que je tenais toujours la sacoche? Peut-être. Peut-être plus. J'avais trop chaud, j'étais nauséeuse, je luttais contre le mal des transports. Donc d'abord hagarde, puis arrogante, et maintenant à moitié dans le cirage. En ville, c'est la loi de la jungle, vous savez. Les faibles et les infirmes sont immédiatement repérés et éliminés du troupeau. Un arrêt après l'autre. Une rue après l'autre. Je tirais presque autant la langue que tulipe. Je ne faisais pas attention aux autres passagers. Je ne prenais pas garde à mon environnement, je comptais juste les rues. En attendant désespérément de quitter ce maudit bus. Enfin, alors que mon visage, d'abord brûlant, était à présent livide, l'arrêt. Les portes se sont ouvertes à l'avant. Je me suis jetée dans la mêlée, avec Tulipe en avant-garde, qui se frayait sans difficulté un chemin à travers cette multitude de grosses chaussures et de pans de manteau. « Pardon, pardon, je descends !» Je poussais, je bousculais, je me coulais, irrésistiblement attirée par la douce musique de l'air frais qui me faisait signe par la porte ouverte. Enfin, nous avons réussi. J'ai échangé un dernier regard hostile avec la conductrice, et Tulipe et moi avons descendu les marches abruptes pour regagner la terre ferme durcie par le gel. Quelques foulées en footing nous éloignèrent de ce sauna métallique. J'ai eu vaguement conscience que les portes du bus se refermaient et qu'il s'éloignait. Aucune de mes mains ne tenait ma sacoche. J'ai ouvert largement mon manteau, pris de grandes goulées d'air glacé et chargé de neige, pour en aspirer autant que possible dans mes poumons surchauffés à travers ma polaire trempée de sueur. Ma sacoche en cuir se balançait contre ma hanche. Mon manteau ouvert battait sur mes cuisses. Plus rien n'existait pour moi que l'air glacial revigorant. Cette sensation sur mon visage. Enfin, j'étais sortie de ce bus. Fin du voyage. De là, Tulipe et moi pouvions parcourir en trottinant les quelques 2 kilomètres qui nous séparaient de notre destination. Nous avions quitté les zones les plus densément peuplées de l'agglomération pour les petites routes et la campagne vallonnée qu'on rencontrait encore çà et là dans la banlieue de Boston. C'était bon d'avoir quitté la ville. Je me sentais en sécurité. Soulagée. Optimiste même. Jusqu'au moment où j'ai été agressée par derrière. L'individu a d'abord agrippé les revers de mon manteau de laine noire, les a violemment tirés vers le bas. En moins d'une seconde, il avait immobilisé mon bras gauche, tout bonnement ligoté par mon propre manteau. Mais la lanière de ma sacoche, en travers de ma poitrine, avait bloqué le revers droit contre mon cou et mon agresseur s'était pris la main dedans. J'ai mis cette seconde à profit pour rester parfaitement immobile, la bouche ouverte en un cri silencieux, pendant que ma cervelle s'écriait, bêtement, « On n'est pas le 21 ?» Pendant que je jouais les statues, mon agresseur a attrapé la lanière, l'a passée par-dessus ma tête d'un geste vif et a balancé ma sacoche sur le côté. Son poids s'est retrouvé sur la laisse de Tulipe. Par réflexe, ma main s'est ouverte, j'ai lâché la laisse, et voilà qu'en un clin d'œil, j'avais perdu et mon arme et mon chien. Pour s'en assurer, mon agresseur, toujours derrière moi, a éloigné mon sac d'un coup de pied. Ensuite, ses mains se sont refermées autour de ma gorge. Enfin, mon instinct de survie s'est réveillé. J'ai arrêté de faire l'inventaire de ce qui m'arrivait et commencé à réagir. D'abord en me débattant contre mon propre manteau. Pendant que mon assaillant resserrait son étreinte, m'obstruait lentement mais sûrement les voies respiratoires, je lui ai donné un coup dans les côtes avec mon coude empêtré dans mon manteau. Quand il s'est déhanché vers la gauche, j'ai profité de ce moment d'asphyxie pour me débarrasser de mon vêtement et enfin libérer mes mains et mes bras. Son étau s'est resserré. La bouche ouverte, je cherchais de l'air. Je sentais la pression monter dans ma poitrine. Le poids de ma panique grandissante. Mais on n'est pas le 21. Se battre. Il fallait se battre. Mais je m'étais attendue à frapper vers l'avant, bien fléchie sur les jambes, bloquée, balancée indirect. Et j'en étais réduite à des techniques d'autodéfense rudimentaires. Tenter d'écraser le coup de pied de mon agresseur, lui ruer dans le genou, le blesser, le mettre hors de combat, manœuvrer pour l'obliger à lâcher prise. Des aboiements. Tulipe qui courait autour de nos jambes. La laisse à terre. Les mains serraient toujours. Des points blancs apparaissaient devant mes yeux. J'en oubliais de frapper du pied, de me battre. Je cédais à la panique et griffais en vain les doigts qui me comprimaient la gorge, comme si ça pouvait changer quelque chose. Voilà donc ce que Randy avait ressenti. Ce que Jackie avait ressenti. Ce poids terrible sur ma poitrine. Le désir, le besoin de respirer était si primaire, si viscéral, que le manque d'oxygène provoquait une douleur toute particulière. Comme si je pouvais sentir les cellules de mon corps mourir les unes après les autres, hurler de désespoir dans leurs dernières secondes. Un bébé qui pleurait au bout du couloir. Je sais, j'aurais dû le dire, j'aurais dû. Je pleurais,
Il était en train de me tuer, et au lieu de résister, je pliais sous le poids des vieux regrets. Le bébé que je n'avais pas su aider. La mère que j'avais laissée me martyriser. Les amis que j'avais aimés de tout mon cœur et vus mourir l'une après l'autre. Les aboiements de Tulipe. Et puis, soudain, un glapissement de douleur. Il lui avait donné un coup de pied. Mon agresseur avait fait mal à ma chienne. Ça m'a mise en rogne. Je me suis affaissée. Me rappelant vaguement d'une manœuvre apprise pendant toutes ces séances d'entraînement, j'ai arrêté de pousser sur mes jambes et je me suis faite poids mort. Le brusque mouvement de mes genoux qui flanchaient a déséquilibré mon agresseur. Il a basculé vers l'avant et j'ai immédiatement contre-attaqué en me campant sur mes pieds et en utilisant le poids de mon adversaire pour le faire passer au-dessus de ma tête. Et là, je me suis jetée sur lui. Coup de pied dans les côtes, coup de poing dans sa tête à découvert. Ce n'était pas de la boxe, c'était du combat de rue. Tout en rossant et pourchassant mon assassin sur le sol enneigé, j'inspirais des bouffées d'air éperdues et heurtées dans mes poumons chauffés à blanc. Il a roulé sur le côté, les bras devant le visage, et rapidement mis de la distance entre nous pour se relever. Pas question. Jamais de la vie. S'il se remettait debout, aucun doute qu'il serait plus grand et plus fort que moi, voire armé d'un couteau, d'un pistolet ou autre surprise de son cru. Alors il fallait que je le maintienne à terre, ou c'était moi qui pouvais le dominer. Moi qui faisais régner la terreur dans cette ville. J'ai continué à le poursuivre. Il a roulé et réussi un instant à se mettre à quatre pattes, mais j'ai récompensé cette performance d'un nouveau coup de pied dans les côtes tellement foudroyant qu'il s'est effondré et a rampé sur le côté. Il gardait la tête basse, ce qui protégeait son visage, mais m'empêchait aussi de deviner ses intentions. C'est comme ça qu'il est parvenu à me surprendre quand j'ai une fois de plus lancé un coup de pied. Sa main gauche s'est tendue à la vitesse de l'éclair, s'est refermée sur ma cheville et a tiré d'un coup sec. J'ai basculé à la renverse et ma hanche droite a craqué à l'atterrissage. Même suffoquée par la douleur, j'ai quand même eu la présence d'esprit de donner des coups avec mon autre pied pour dégager ma première jambe. À présent, nous étions tous les deux à quatre pattes sur le sol gelé, à nous tourner autour. Tulipe aussi tournait en rond. Elle n'aboyait plus, elle gémissait, hésitante. Je ne pouvais pas prendre le risque de la regarder, ni de regarder autour de nous. J'aurais sans doute dû crier, appeler au secours. La rue était toute proche. Il était plus de 9 heures du matin. Même en périphérie urbaine, aucun lieu n'est jamais totalement désert. Mais j'étais incapable d'émettre le moindre son. Mon sang battait dans mes oreilles. J'entendais le bruit rauque de ma respiration. Mes cordes vocales étaient bloquées, paralysées. Dans les films d'horreur, la courageuse victime hurle toujours de terreur. Dans la vraie vie, on a plus de chances de mourir en silence. J'ai réussi à me relever en même temps que lui. D'un bond, je me suis remise en garde, enfin en vraie position de combat, au moment où mon agresseur se mettait en face de moi. Et je me suis retrouvée nez à nez avec le visage buriné de mon moniteur de tir, J.T. Dillon. « Je te donne un C », m'a-t-il dit. Il s'est redressé, a baissé les bras. Encore un peu incertaine de ce qui se passait, j'ai voulu lui coller une droite dans la tempe. Aussitôt, J.T. apparaît avec son bras gauche. « Voir un D », a-t-il continué d'une voix enrouée, aussi hors d'haleine que moi. « Tu es encore vivante, mais c'est limite. » Lentement, je me suis redressée à mon tour. « Tu m'as agressée à titre d'entraînement ?»« Considère ça comme une remise de diplôme. » Il a tâté le côté où je lui avais donné un coup de pied assez violent et il a grimacé. « Mais bon, vu mon âge, la prochaine fois je me contenterai de remettre un diplôme papier. » J'étais toujours en garde. Impossible de baisser les poings, pas encore. Ma respiration était trop courte, j'avais mal à la gorge. D'ici quelques heures, j'aurai des bleus. « Salaud !» ai-je explosé. Il m'a observé avec des yeux impassibles, impénétrables. Je l'ai encore frappé, il a encore bloqué. Alors je me suis vraiment lâchée. Coup de poing, direct. Je lui suis tombée dessus, et bientôt nous nous sommes retrouvés à nous courir après. Lui, cette fois sur la défensive. Moi, animée d'une rage qui m'était pratiquement inconnue. Il m'avait fait du mal. Il fallait que je lui rende la monnaie de sa pièce. Il avait failli me tuer. Et je l'avais pratiquement laissé faire. La douleur était cuisante. À ma gorge, ma poitrine, mon amour propre. Tous ces entraînements, tous ces exercices, et j'avais quand même été à 2 doigts de mourir, trucidée par un ex-marine de 60 ans. Tulipe nous poursuivait, sans aboyer ni gémir. Elle m'avait déjà vue en combat d'entraînement, alors peut-être que la situation était plus claire pour elle que pour moi. Je ne sais pas. Je poursuivais mon moniteur de tir et il me laissait faire. Il esquivait, bloquait, reculait, répondait parfois d'une calotte. Se déplaçait à une vitesse dont je n'aurais pas cru encore capable un ancien tireur d'élite aux cheveux gris. Le problème de la boxe, si on veut vraiment que les coups soient percutants, c'est que ça demande une explosivité et une dépense d'énergie phénoménale. Même les champions du monde poids lourds sont obligés de faire une pause toutes les 3 minutes. Bientôt, mes mains sont devenues lourdes. Mes poumons cherchaient de l'air. Mes épaules et ma poitrine me brûlaient. Mon pouls s'était accéléré jusqu'à la limite de la nausée, et je ne poursuivais plus mon adversaire qu'en chancelant. La colère me poussait encore, mais le reste flanchait. Jetty a mis un terme à la situation en se laissant lourdement tomber à terre sous un arbre squelettique. Je me suis effondrée dans la neige à côté de lui, le visage cramoisi et en nage après tous ses efforts. La neige était agréable, le ciel gris comme un baume sur mes joues en feu. Tulip est venue s'asseoir à côté de moi avec un gémissement hésitant. Je lui ai caressé la tête. Elle m'a léché la joue. Ensuite, elle est allée vers Jetty pour répéter ce rituel. Assurée que tout allait bien désormais, elle s'est couchée entre nous en se collant contre moi pour avoir chaud. Au bout de quelques secondes, Jetty s'est relevée, est allée chercher ma sacoche et me l'a rendue. Il s'est rassis et nous avons encore laissé un moment s'écouler en silence. « Pourquoi est-ce que mon moniteur de tir me tabasse ?» ai-je fini par demander. Il m'a regardé droit dans les yeux. « Rien de mal à s'exercer avec un pistolet ?» m'a-t-il répondu sèchement. Mais le plus probable est que tu n'arriveras pas à tirer le moindre coup de feu. Et dans le cas contraire, tu seras paniqué et inondé d'adrénaline. Tu videras ton chargeur en tirant n'importe où, et là, ce sera retour à la case départ. Le corps à corps. J'ai repensé à ma confrontation avec Stan Miller. Jetty venait d'en offrir un excellent résumé. Stan et moi avions tous les deux tiré à tout va, et l'affrontement s'était conclu par un corps à corps. « Tu as déjà tué quelqu'un ? » ai-je demandé.
J'ai fait ma part de dégâts.
Ça te faisait quel effet?
Jamais aussi agréable que j'aurais voulu.
Le silence est retombé entre nous. Je caressais la tête de Tulip. Est-ce que je vais mourir le 21? Question idiote, mais peut-être que la vie se résume à ça. Des questions idiotes lorsqu'à notre dernière heure nous voyons la locomotive nous foncer dessus en nous demandant à quel point ça va faire mal.
Peut-être, a dit Jetty.
Il m'a regardé.
Qui est-ce qui te battait?
Ta mère? Ton père? Ton petit copain? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je caressais les oreilles soyeuses de Tulip. Ma mère. Syndrome de Münchhausen par procuration. C'était la première fois que je prononçais ces mots à voix haute. Tante Nancy et moi n'en avions jamais discuté, et je n'avais jamais rien dit à Randy et Jackie. Je ne leur avais même jamais parlé de ma mère, ni de l'endroit où je vivais avant de venir dans les montagnes, ni d'aucun des jours, des semaines et des mois qui s'étaient écoulés avant que je devienne la nièce de ma tante plutôt que la fille de ma mère. Mais je l'ai dit à J.T. Dillon parce que frapper quelqu'un produit cet effet-là. Ça rapproche. Le sexe, la violence, la mort. Que des choses intimes à leur manière. Ça aussi, je l'ignorais jusqu'à l'année précédente.
« Tu ne t'es pas défendu, » m'a reproché Jetty. « Tu ne t'es pas battu pour toi. »«
Si, à la fin. »«
Non, j'ai donné un coup de pied à ta chienne. Tu t'es battu pour ta chienne. »«
C'est une bonne chienne. »
Il m'a dévisagé. « Il faut que tu te sortes ta mère de la tête. »
Je me suis raidie. Je caressais toujours les oreilles de Tulip, mais je sentais que je me recroquevillais intérieurement.
« C'est sérieux, » a repris Jetty. « Il faut que tu frappes pour toi-même. Que tu prennes cette colère, cette honte, ce silence, et que tu t'en fasses une arme. Il faut que tu saches, Charlie, il faut que tu sois intimement persuadé que ce n'est pas normal qu'on te maltraite. Tu ne mérites pas d'être puni. Si on t'agresse, tu ne l'acceptes plus. Tu rends les coups.
« J'essaie !»«
Mon œil, tu hésites. Dans un coin de ta tête, tu es conditionné pour attendre que ça passe et que la punition s'arrête. » Écoute, je peux t'apprendre à tirer. Dick peut t'apprendre à frapper, mais aucun de nous ne peut te désapprendre à être la victime de ta propre vie. C'est à toi de le faire. À toi de le vouloir. Le rouge aux joues, je me sentais réprimandée comme une gamine qui n'aurait pas fait ses devoirs. Je ne voulais pas être passive. Je voulais être une terreur. Et pourtant, quand ses mains s'étaient nouées autour de ma gorge, quand il m'avait attaqué par derrière.
J'avais eu le sentiment que je le méritais. J'avais été méchante et je méritais ma punition. Réaction conditionnée de tous les enfants maltraités du monde. Nous grandissons, mais aucun de nous n'y échappe jamais.
Mourir pour quelqu'un d'autre est facile, murmurait Jetty, comme s'il lisait dans mes pensées. Vivre pour soi-même. C'est ça le défi. Mais il faut le faire, Charlie. Respecte-toi. Défends-toi. Bats-toi pour toi-même.
J'ai hoché la tête, en serrant Tulip tout contre moi pour l'aider à ne pas se refroidir. On va tirer maintenant ?
Dans une minute. Il était en train d'ouvrir mon sac pour en sortir mon taurus. Le 22 paraissait tout petit dans sa grande paume calleuse. Ses longs doigts étaient mieux faits pour la puissance de son Colt 45 que pour mon pistolet fantasy. Il l'a reniflé, m'a regardé. Ne jamais ranger une arme sale.
Je comptais la nettoyer après notre séance.
Ne jamais ranger une arme sale.
D'accord.
Tu as envie d'en parler ?
Non.
Tant mieux. Parce que je n'ai pas envie de savoir.
Il m'a rendu le taurus. Nous nous sommes relevés.
Ça va aller pour marcher ? A-t-il demandé en montrant Tulip.
Si on se débrouille pour qu'elle soit toujours en mouvement, il faudrait que je lui achète un manteau. Peut-être cet après-midi.
Fais ça. Une chienne qui vaut la peine qu'on se batte pour elle mérite bien une petite laine.
Jetty s'est mis à marcher. Tulip et moi avons réglé nos pas sur le sien. Sa maison se trouvait à 2 kilomètres, cachée au cœur d'un 1,5 hectare de terrain. Idéal pour un homme qui possédait un champ de tir dans son jardin. Idéal pour un homme et son épouse qui ne recherchaient guère la compagnie.
Elle vit toujours ? M'a-t-il demandé en marchant. Inutile de me préciser de qui il parlait.
Non. Encore un aveu rare. Un souvenir à peine connu et en tout cas jamais approfondi. Mais si je me posais sérieusement la question, bien sûr que ma mère était morte. Il tombait sous le sens que si elle avait été encore en vie, elle m'aurait contacté à l'heure qu'il était. Elle aurait écrit depuis la prison ou l'établissement psychiatrique quelconque où elle vivait. Elle serait passée dès l'instant où on l'aurait laissé sortir. C'est le principe même du syndrome de Munchausen par procuration. L'agresseur se considère comme la victime. Tout tourne autour de lui. Ce n'est pas seulement qu'il a besoin de compassion, de soutien, de compréhension, il les mérite, mais je n'avais reçu aucune nouvelle de ma mère depuis que je m'étais réveillée dans cet hôpital de l'État de New York. Pas un coup de fil. Pas une lettre. Pas une visite éclair. Il y avait eu une sorte d'affrontement final. J'avais survécu. Quant à ma mère...
Alcoolique ? A demandé JT.
Non.
Toxicomane ?
Folle. Tout simplement folle.
Content qu'elle soit morte alors. Maintenant tourne la page.
D'accord,
lui ai-je promis.
Je ferai aussi bien.
J'ai jeté un coup d'œil à ma montre et marmonné.
Plus que 58 heures.
Ensemble, nous nous sommes mis à trottiner.